Yaroslav, bonsoir. Merci d'avoir bravé les éléments et d'être venu. Alors, donc, le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, alors c'est ce que j'appelle vraiment des thèmes fourre-tout. Hein, c'est-à-dire, c'est des thèmes dans lesquels les mots veulent tout dire et rien dire. C'est vraiment, on a l'impression qu'on est presque dans une accroche de Psychologie Magazine, d'accord, une vie épanouie, une utopie. Alors, comme ça, au moins, vous avez tout mis, la vie, l'utopie, l'épanouissement. Faites une grande salade et puis après, vous servez ça en hiver bien chaud, en été plutôt frais et puis on voit ce que ça donne. Le point d'entrée de la réflexion que je voudrais avoir avec vous ce soir, elle va peut-être commencer justement sur les parachutes qu'on est en train de traverser, d'accord ? On est en train de traverser donc des parachutes dans laquelle on a donc l'histoire de ceux qui sont les fondements même du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ces trois fondements du clan d'Israël vont chacun avoir une vie quand même qui est très particulière. Et c'est vrai que si on analyse, eh bien, que ce soit leur vie, que ce soit ce qui se passe après avec ceux qui vont créer l'histoire, c'est pas banal. On a quand même une succession d'histoires très complexes. D'un Avraham avec épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve, avec en plus l'annonce de l'exil, d'accord ? Yadoa teda ki gari yezaracha beretz olam, voilà. Il faut que tu saches que bien, tes descendants seront en exil. Fameux moment dans lequel du Brit Ben Abtarim, n'est-ce pas, de l'alliance entre les morceaux dans lequel Avraham se retrouve avec Eimach Hashecha Nofelet Alav, avec une forme de terreur noire qui lui tombe dessus. Enfin, c'est pas banal. Et puis on lui annonce, un futur qui ne se conjuguera pas nécessairement plus que parfait. Donc on a déjà dans l'histoire d'Avraham avec deux fils, un qui part. On sait trop où, malheureusement, c'est Ishmael. On a Yitzhak de l'autre côté, mais l'histoire, elle n'est pas simple. L'histoire, elle n'est pas simple, la complexité d'avoir des enfants. Enfin, cette histoire, elle n'est pas simple. Et puis après, il y a encore d'autres enfants qui arrivent, mais on ne sait même pas ce qui se passe avec eux. Hein. Il y a encore d'autres enfants. Kedma el Eretz, Kedem vers l'Est, les pays de l'Est, ça va, ça disparaît, point. On a derrière donc un Yitzhak qui arrive, deuxième, même problématique. Donc, il lui-même a déjà vécu l'expérience de l'Akeda, de la ligature d'Israël, puisque c'est comme ça qu'il faut le traduire. Derrière ce mariage, cette difficulté à avoir des enfants, l'émergence de Esav, le conflit entre les frères, le problème qu'il a avec tous les voisins, Avimelar, enfin voilà, tout ce qui se passe autour, les puits, enfin, c'est pas simple cette histoire. Et puis après, ça ne voit plus. Donc on a quand même aussi de nouveau, quelque chose de pas banal qui se passe. Et puis on a Yaakov, je ne vais pas dire que c'est le pompon, mais c'est la même chose. Dès le début, il y a l'antagonisme avec le frère. On ne sait pas ce qui se joue vraiment dans la relation au père, puisque le père est plus du côté de Esav. Obligé de faire des choses qui le dérangent quand même, quand sa mère lui dit « tu vas récupérer les bénédictions ». Yaakov est vraiment embêté. Et puis après, ça continue. La fuite quand même. Et puis après, il ne voit pas son père pendant 22 ans. Quoi. C'est pas banal. Sa première épouse, la seconde épouse. Lavan, l'escroquerie de Lavan. Lavan qui lui court derrière. Yaakov qui s'en va. Esav, la poursuite de Esav. Je sais pas, il s'en passe des choses. Et puis après, Bikesh, Yaakov, la chevette de Shalva, ce fameux Rashi, Yaakov veut enfin s'installer. Shalva, il est un peu sereine, un peu tranquille, quoi. Et puis, boum, sur la tête, il a de nouveau l'histoire de Yosef. Et cette histoire de Yosef qui le plonge dans une immense affliction, puisque Yoma'en et Itnachem, comme le texte nous dit, refuse de se laisser consoler, comme les Chazal, les Chachamim, nos maîtres expliquent, parce qu'il ne peut pas se consoler, parce qu'on ne peut pas se consoler de quelqu'un qui n'est pas là, dont on pense qu'il est mort, mais qui n'est pas mort. Cette notion d'oubli n'est pas possible. Et puis après, il y a une forme de happy end, mais le happy end, il n'est pas banal, puisque Hachem lui dit, va en Égypte le rejoindre, n'aie pas peur, je suis là, mais c'est quand même le début de l'exil. Hein. C'est le début de l'exil. D'accord, mais je suis là. Mais l'exil commence. Et donc, Yaakov qui se retrouve en Égypte, et Yaakov qui disparaît, puis de nouveau Yosef, et puis boum, et ça reprend, et ça redémarre, et l'exil, et l'Égypte, etc., etc. C'est quand même assez intéressant de voir que, on va dire, l'histoire du début du clan Israël commence quand même sur des choses qui sont tout sauf une vie passionnante, tout sauf un quotidien épanoui, avec pour les deux premiers, quand même une histoire très bouleversante, c'est celle de Ishmaël d'un côté, Ismaël et de Esav et Esaü de l'autre, et puis même pour Yaakov, il y a quand même le viol de Dina, il y a la disparition de Yosef. Donc il se passe même des choses au niveau des enfants, c'est pas si simple, à tel point que quand ils se retrouvent après, alors ils vont dire Shema Yisrael Hashem, il est rassuré, mais c'est la fin de sa vie. Ils sont ensemble. Mais voilà. Puis nous, on est là et puis on est dans des aspirations à vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Comment on fait avec une histoire pareille? Et c'est vrai que cette réflexion, au fond, elle est d'autant plus intéressante, c'est que quand il y a un zeste de plainte, eh bien, Akadosh Baruch Hu intervient tout de suite. Et d'ailleurs, on voit que ça se plaint quasiment pas. Puisque quand Dieu va parler plus tard à Moshe, à Moïse, il va lui dire, attends, tu te plains de quoi? Vaerel, Avram, Yitzhak, Yaakov, Bekel, Shakai, Ushmi, Hashem, Lonadat, Ilahem. À eux, je suis apparu, mais pas dans toute ma puissance, dans toute ma gloire, et Shmi Hashem, mon nom Dieu, je ne l'aurais pas fait, je l'aurais pas dit, et malgré tout, il continue, il ne se plaigne pas, ça avance. Alors, bien sûr, on pourrait ouvrir ici une réflexion et se dire peut-être qu'en effet, tout l'enjeu du juif, si c'est ça les exemples du début de l'histoire, c'est de savoir supporter la souffrance, la douleur et y avancer quand même. Ce serait une vision un petit peu quand même doloriste, qui n'est pas nécessairement la vision de la Torah, surtout que par ailleurs la Torah va nous demander quand même quelque chose de très fort. Elle va nous demander la nécessité de servir Dieu, le simcha, dans un état de joie. Dans un état de joie qui est au fond au cœur même de ce qui permet à quelqu'un d'avoir une vie épanouie. Et on voit à quel point l'absence de cette joie est considérée par la Torah comme étant lourde. C'est que dans les clalotes, dans les malédictions, le verset nous dit bien « Tachat asher lo avatet Hashem elokecha besimcha betuv levav merov kol ». Il dit « Mais sache que si ça t'arrive, c'est parce que, clal Israël, tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu, besimcha dans la joie, merov kol, quand tu avais tout ce que tu avais besoin ». On verra, ça ne veut peut-être pas nécessairement dire ça tout à l'heure, on va peut-être ouvrir à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on a quand même ici une injonction, une obligation. On nous dit, donc ça veut dire qu'il faut l'être dans cet état de simcha, il faut être dans cet état de joie. Puis par ailleurs, l'histoire du clan d'Israël, elle est complexe, et notre histoire, à nous, elle est complexe, qu'on le veuille ou pas. Alors, comment est-ce qu'on fait? Or, on voit que cette notion de simcha, elle est au cœur même de ce qui permet d'avoir une vie épanouie. Pardonne-moi. Le Rambam nous explique que on doit être dans un état de simcha, de joie, lorsque l'on accomplit la volonté d'Hachem. On nous parle de simcha, on nous parle de joie dans différents textes. Il y a un des textes les plus fameux, les plus connus. C'est Shabeach ani et ha-simcha. Salomon dit qu'il valorise la simcha. On va voir aussi Ezehu Ashir Asamer Bechelko. Quel est l'homme riche et celui qui est Samer, content Bechelko de sa part. Simcha dans la mitzvah, enfin toutes ces choses-là, comment comment ça se crée, comment ça se met en place. Alors bien sûr, il n'y a pas de recette, évidemment. On va essayer de voir quel est au fond le principe même de la joie, qu'est-ce qui crée chez nous de manière générale de la joie. Vous constaterez que de manière générale, les sentiments de joie, les sentiments de bien-être sont présents lorsque il existe quelque chose d'extérieur qui intervient et qui se retrouve dans notre existence. Vous allez le bloquer. Généralement, on est dans un état de joie quand on a acquis quelque chose, lorsqu'on a réalisé quelque chose, lorsque l'on fait quelque chose. Voilà, c'est ça l'état de joie. Si vous réfléchissez, à quel moment vous avez été content, bien ? Eh bien, la plupart du temps, vous allez découvrir que c'est quand il y a quelque chose d'extérieur qui n'était pas encore présent, qui intervient dans notre existence. Je n'étais pas marié, je suis marié. Je n'étais pas riche, je suis riche. Je n'avais pas ceci, j'ai cela. J'ai étudié quelque chose et maintenant je possède ce savoir, ça me rend joyeux. J'ai aidé quelqu'un, je suis content. C'est-à-dire il y a un élément qui n'était pas présent, qui intervient dans notre vie et qui génère cette simra. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié à l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement lié à l'avoir. C'est aussi, voilà, une étude. Parfois, on sort d'une étude et on est content. Pourquoi ? Parce que nous ne possédions pas encore ce savoir, maintenant nous le possédons. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'introduit à l'intérieur de notre existence. Donc, il semblerait qu'en tout cas, cette notion-là soit toujours dépendante de quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes. La question qui se pose est de savoir est-ce que on a sans arrêt besoin de ça ? Ou est-ce que cette notion de joie, qui est à la racine même de tout épanouissement, et on va y passer par la suite, est quelque chose qui peut exister en tant que tel dans notre existence. Est-ce que je peux être, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de me dire génial, j'ai une femme extraordinaire, un mari super, des enfants tellement gentils, une très belle voiture que je rêvais, j'ai compris telle et telle chose, enfin, est-ce qu'on est obligé d'avoir quelque chose qui n'était pas pour pouvoir ressentir cette sensation. Et quand je parle de cette chose que nous n'avions pas, ça peut être quelque chose de très beau, de très spirituel, de tout ce que vous voulez, d'accord ? Ou est-ce que cette idée de joie est quelque chose qui peut exister en tant que tel ? C'est-à-dire, est-ce que sans un élément extérieur, je peux créer cette notion-là à l'intérieur de moi ? Lorsque on réfléchit un tout petit peu à ça, eh bien, on va réaliser que le point d'entrée de cette simra ne doit pas dépendre d'un élément extérieur à nous-mêmes, car nous pouvons en effet le créer en tant que tel. Comment est-ce que cela ? Il y a un texte qui nous dit... Excusez. Chayav kol adam lomar bishvili nivra haolam. Chaque être humain a l'obligation de se dire bishvili pour moi nivra haolam, le monde a été créé. C'est-à-dire j'ai une valeur, une importance en tant que tel et je représente quelque chose d'extraordinaire. On va voir en quoi cet état de conscience va être à l'origine de l'épanouissement et de la joie. Mais déjà, il est intéressant de voir que les Chachamim nous disent « Chayav kol adam lomar »« Chayav » une obligation. Si on nous dit que c'est une obligation, ça veut dire que c'est une chose sur laquelle tu ne peux pas négocier. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire, qui est obligatoire. Tu dois l'installer dans ta vie. Et kol adam, chaque individu, c'est-à-dire tu n'as pas le droit à un moment de considérer que cette chose ne te concerne pas. Chayav, il y a cet impératif qui est très, très intéressant. On aurait pu dire tsarir, il faut, zetov, c'est bien. Chayav, Chayav, tu as l'obligation de dire. Kol Adam, chaque individu, ça veut dire quoi? Et on va regarder, si vous le voulez bien, un principe de halakha, un principe de loi juive. Imaginez, que Dieu ne plaise, qu'une personnalité de tout premier plan, un des maîtres les plus prestigieux de la génération, un décisionnaire reconnu, un dirigeant, enfin, il a tout, quoi. Un enseignant, un maître, un rav qui dit la halakha, etc. Et besoin, par exemple, qu'on lui fasse une greffe de quelque chose. D'accord? Donc on cherche quelqu'un qui est compatible. Et puis on découvre un juif comme ça au fin fond d'un hospice, qui a 97 ans, qui est déjà sénile, à moitié végétatif, qui a besoin de vivre avec des perfusions, qui n'a aucune famille, ni d'ascendant, ni de frère, ni de sœur, ni de cousin, ni de cousine. Il est seul au monde, il est le seul présent dans sa vie. Donc sa disparition ne créera aucune, a priori, souffrance à quiconque, puisque ça y est, il n'y a plus personne dans sa famille, mais personne, rien, d'accord? Lui-même n'est pas vraiment conscient, il est totalement sénile. Et lui, il est compatible. Seulement le problème, c'est que si on fait le prélèvement d'organes chez lui, on le met en danger, on ne sait pas. Mais il y a un doute, peut-être que cette personne-là risque de mourir. Mais de toute façon, un jour à l'autre, ça va se passer, vu son âge, vu son état de santé, vu tout le reste. Et en plus, aujourd'hui, demain, hier, ça fera de peine à personne, personne ne le connaît, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez cette référence, cet homme, on va dire, il a 40 ans, tout le monde a besoin de lui, incroyable, il a une famille, enfin voilà. Et c'est urgent. A priori, on dit, bon, ben, mais là, la loi juive, la halakha te dit non. La halakha te dit non. Pourquoi ? En dochil nefesh mipne nefesh. Tu ne peux pas repousser une vie par rapport à une autre. Ça veut dire quoi ? Ce cas, bien sûr, qui est extrême, dont on espère qu'il n'existera jamais, mais ce cas-là est là pour illustrer la valeur intrinsèque de l'être au-delà de ce qu'il produit, au-delà de ce qu'il apporte, au-delà de ce qu'il représente à l'intérieur du monde. Nous sommes dans un univers dans lequel la conscience que nous allons avoir de notre propre valeur, qui est le point d'entrée d'un état de joie qui ne dépendra pas de quelque chose d'extérieur à nous, eh bien cette conscience que l'on a de notre propre valeur est souvent relative à ce que nous représentons à l'intérieur du monde et par rapport à l'univers dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que si on réfléchit, cet état de joie profonde qui est nécessaire pour vivre une vie épanouie, équilibrée, eh bien, bon nombre d'entre nous ne la possèdent pas. Rares sont les personnes qui vivent dans cet état de joie permanent. Et c'est quelque chose à construire. C'est quelque chose à mettre en place. La halakha, la loi juive te dit qu'on soit clair. Mais celui-là ne produit rien, il n'apporte rien, a priori, il se contente d'être, voire même il est une charge pour la société, mais il existe. Et parce qu'il existe, il a une valeur, et tu ne sais pas quelle est la valeur qu'il représente au niveau de l'économie de l'univers. Au fond, il faut d'abord sortir de la première vision que nous avons de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sortions des définitions qui nous sont proposées par le monde dans lequel nous existons. Nous vivons dans un univers dans lequel on définit la valeur de l'être avant tout à travers ce qu'il représente dans une société, qui définit, elle, la plupart du temps, sa valeur à travers ce qu'il produit, à travers son savoir, à travers ce qu'il apporte, à travers ce qu'il représente, à travers ce que son absence pourrait générer comme tristesse, que sais-je. Et donc c'est ça qui lui donne une valeur. C'est ça qui lui donne une valeur. Ce qui est très intéressant, c'est que quand la Torah nous parle de rachat de notre propre valeur pour le Beth Amikdash, elle donne un chiffre. Je vous prie de m'excuser. qui est clair et dans lequel on n'intègre pas, merci beaucoup, dans lequel on n'intègre pas nécessairement qui tu es. C'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire que, à un moment, la loi juive te dit que tu dois en effet te lever devant un sage, devant une personne âgée. Pourquoi ? Parce que le sage représente la Torah et la personne âgée, nécessairement, est considérée comme quelqu'un qui a de la valeur de par le fait que si elle a cet âge-là, c'est que sans doute elle mérite un temps soit peu d'avoir vécu autant de temps et donc on doit se lever devant sans doute les bonnes actions qu'elle véhicule que nous ne connaissons pas, entre autres. Mais ce n'est pas la personne intuitive personnée. C'est ce qu'elle véhicule. Ce n'est pas Monsieur X et Madame Y. C'est ce qu'il représente. Alors on confond l'individu au bout d'un moment avec ce qu'il représente. Et pourquoi pas ? Mais ce principe d'un dochin nefesh, mipten nefesh, que tu peux pas dire, on prend le membre de cette personne-là pour faire la transplantation parce qu'on risque de le faire mourir, t'apprends qu'il y a une valeur intrinsèque. Mais pour savoir qu'il y a une valeur intrinsèque, faut d'abord sortir du système dans lequel tu ne penses que Dieu a une valeur qu'à travers ce que tu es dans les définitions qui nous ont proposées par la société. C'est l'expérience qu'on a toutes et tous fait quand on était à l'école, dans lequel très tôt, pardonnez-moi, dans laquelle très tôt, on nous a noté. On nous a noté. Donc comme on nous a noté, très tôt, on a vu que nous avions une valeur à travers ce que nous avons produit, c'est-à-dire à travers l'expression de nos capacités intellectuelles, à travers la présence de parents qui nous aident à avoir une réussite X, Y ou Z, à travers, en effet, quelque chose qui ne nous appartient pas, qui nous a été proposé par Dieu, ou alors de par le fait qu'on soit plus sympathique ou moins sympathique aux yeux de l'enseignant. Donc, très très tôt, on a inscrit à l'intérieur de nous cette idée que notre valeur sera relative à quelque chose que nous possédons ou que nous ne possédons pas, et que c'est ceux qui sont à l'extérieur de nous qui vont la définir. Et on continue à avancer. Et malheureusement, souvent, nos parents ont continué à faire la même chose. C'est-à-dire, ils nous ont montré que nous avions une valeur à travers ce que nous avons fait. Merci beaucoup, c'est gentil. À travers ce que nous avons fait, à travers ce que nous avons produit, à travers ce que nous avons réalisé. Et c'est ça qui s'inscrit au fur et à mesure à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, dès le moment où nous n'avons plus de valeur, c'est-à-dire elle n'est pas révélée de par ce que nous allons produire ou ce que nous allons être, eh bien, évidemment, ce regard que nous avons à avoir sur nous-mêmes change. Et ça, c'est peut-être le premier travail à faire. Le premier travail à faire, c'est d'être capable de sortir de cette dépendance, d'être capable de sortir de ce système dans lequel je fais dépendre sans arrêt ma valeur de ce que j'ai produit, de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai fait, tel que les autres le définissent. Parce que, en rentrant là-dedans, eh bien, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour sentir que nous avons de la valeur. Et donc, c'est avant tout ce que les autres diront de nous qui créera chez nous un sentiment de bien-être et pas de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. J'ai une valeur en tant que telle. Point barre. Chayav kol adam lomar bishvili nivra olam. Je représente le monde avec moi et sans moi, ce n'est pas le même univers. Le monde avec moi et sans moi, ce n'est pas le même univers. Pourquoi ? J'en sais rien. En tout cas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que donc, j'ai une raison pour laquelle je suis ici. C'est-à-dire, de par ne serait-ce que ma présence, le monde est différent. Et cette sensation-là, déjà, va être le point d'entrée qui nous permettra par la suite de nous inscrire dans une vie dans laquelle la notion d'épanouissement sera présente. C'est-à-dire savoir en tant que juif que Dieu est intéressé par ma présence dans ce monde. Point barre. Qu'il y a un deuxième axe qui va être ce que je vais produire, ce que je vais faire, ce que je vais réaliser. Mais même si je ne produis rien, même si je ne réalise rien, le fait même déjà d'exister est une chose extraordinaire parce que Dieu est intéressé à ce que je sois dans cet univers. Et c'est vrai que c'est, vous savez, c'est comme dans des relations des parents à des enfants. Imaginez qu'un parent a l'impression qu'il a perdu un enfant. Pas nécessairement dans un drame, mais voilà, il ne sait pas où il est. D'accord ? Et il le retrouve. Il est heureux qu'il soit là. Et l'enfant prend conscience que le fait même qu'il soit là, c'est déjà extraordinaire. Il y a une histoire comme ça, vraie, que j'avais lue il y a longtemps, d'un jeune homme qui était parti de chez lui relativement tôt aux États-Unis. Cette histoire se passe aux États-Unis avec des parents américains et cet enfant a fait vraiment, on aurait dit aujourd'hui, les 400 coups, mais plus que les 400 coups. Et puis, rupture avec la famille, distance, il était tombé dans toutes sortes de je ne sais trop quoi. Et puis, un beau jour, il écrit à ses parents. Il dit qu'il va passer dans la ville. Il aimerait les voir, mais il ne sait pas si eux ont envie de le voir. Alors, ce n'est pas l'époque dans laquelle on avait encore des portables, des SMS et des WhatsApp. C'est une histoire qui se passait, je crois, il y a une quarantaine d'années, facile. Donc, il leur écrit une lettre. Il dit, voilà, je vais prendre le train. Et vous savez, si mes souvenirs sont bons, en arrivant à la gare, c'est un petit patelin, on aurait dit aujourd'hui aux États-Unis. Je sais que, vous vous rappelez, il y a un grand arbre juste avant la gare. Et le train ralentit parce que c'est une courbe. Et il y a là-bas toujours ce grand arbre. Alors, si vous voulez, si vous êtes intéressé à me voir, mettez juste accroché sur cet arbre un chiffon blanc. Et quand j'arriverai, si je le vois, je sais que je descends. Et si je ne le vois pas, ça veut dire que je ne descends pas. Et il raconte que quand il arrive, il ne voit pas de chiffon blanc, bien sûr. Il voit que l'arbre entièrement était recouvert de tentures blanches pour être sûr qu'il va bien le voir. Pourtant, c'est un enfant qui a fait les 400 coups. C'est un enfant qui, sans doute, n'a rien pour l'instant apporté à ses parents par rapport aux attentes qu'ils avaient vis-à-vis de lui. Mais il l'aime en tant que tel. Il l'aime en tant que tel. Pourquoi ? Parce que c'est leur enfant. Point. Ressentir en tant qu'enfant qu'on est aimé, point, barre. C'est un sentiment incroyable. Je représente et j'ai quelque chose, j'ai une valeur en tant que tel. Nous, c'est par rapport au créateur de l'univers. Ça veut dire que savoir que sans produire quoi que ce soit, parce que là, il y a encore l'univers des parents et des sentiments, vous allez me dire, mais là, pour Akadosh Baruch Hu, tu dois te dire, Bishvili Nivra Olam, sache que pour toi, je crée l'univers. Ce que tu y feras, c'est un deuxième problème. Mais tu as une valeur en tant que tel. Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce que tu sois là. Et cette dimension-là, malheureusement, on l'oublie. Parce qu'on est habitué à penser qu'Akadosh Baruch Hu n'est intéressé par nous que dans la mesure où on répond présent à ses demandes. Et que si nous ne répondons pas présent à ses demandes, alors peut-être qu'il n'est plus intéressé. La meilleure preuve que non, c'est qu'on voit très bien que parfois on ne répond pas du tout à sa demande, voire le contraire, et que malgré tout on est là. Ça veut dire que on a une valeur et on représente quelque chose. Ça c'est, j'ai envie de dire, le point d'entrée de notre réflexion. La notion de Simcha ne doit pas dépendre de quelque chose d'extérieur, elle doit dépendre de cette conscience que l'on a une valeur en tant que telle. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit « Je suis intéressé à ce que tu sois dans le monde ». Il nous révèle que nous avons une valeur en tant que telle. Ça, c'est le point de départ. Évidemment, l'être humain va par la suite commencer à avancer dans l'existence et doit en permanence garder en tête que ce ne sont pas ses réalisations qui justifieront sa présence dans l'univers, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu créer le monde. Il est marqué que Dieu, au début, a voulu créer le monde sur le principe de Midat Hadin, de la rigueur. Et il a dit, c'est pas possible. L'univers ne peut exister que sur Rachamim, que sur la miséricorde. Pourquoi? Parce que si l'univers était créé sur le principe du din, de la rigueur, eh bien, la vie serait ainsi faite. À l'image de quelqu'un qui travaille dans une société, s'il ne remplit pas à un moment les règles, et s'il n'assume pas ce qu'on lui a demandé d'être dans cette société, on le renvoie. Le monde créé sur le principe de la rigueur, c'est le moment dans lequel je te demande de justifier à chaque moment de ta présence ici même. Ce qui est totalement normal. Dans une société, tu es là pour une chose, si tu ne veux pas assumer ta responsabilité, ben c'est pas grave, tu sors. Tu es employé à la RATP pour conduire le métro, tu veux pas le conduire ou tu veux le conduire une fois sur deux, ou tu veux t'arrêter au milieu et partir te promener, il n'y a pas de problème et tu t'en vas. C'est tout, c'est pas grave, c'est aucun problème. Exit. Le monde ne peut pas être créé sur ce système. Donc le monde a été créé sur Rachamim, sur le principe de la miséricorde. C'est comme ça que l'univers a été créé. Kadosh Baruch Hu a créé l'univers sur le principe de la miséricorde. Et donc, je sais que ce que je fais, ce n'est pas ça qui nécessairement va justifier ma présence dans l'univers. Parce que je vois très bien que même quand je ne le fais pas, je suis encore là. Donc ce que je vais faire n'est pas là pour être sûr de rester présent dans cet univers. Ce que je vais faire va maintenant être un autre élément qui va participer de mon épanouissement. Mais le point d'entrée, comme on l'a vu, c'est cette simcha, cette joie que l'on a de savoir que l'on existe et que HaKadosh Baruch Hu est intéressé par nous. HaKadosh Baruch Hu est intéressé par nous, sinon on ne serait pas là. Comme ça, un jour, un jeune homme qui vient me voir et qui me dit « Mes parents m'ont dit que j'étais né par accident. » C'est un peu violent, hein, quand on dit un truc pareil. En deux mots, on voulait pas de toi, mais bon. Ok. Et vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Alors, vous savez, à ce moment-là, j'ai une phrase. Cette phrase-là vous vient directement de là-haut, hein. Vous la dites pas vous-même, on vous la fait dire. Je dis, tu sais, il y a trois associés dans la conception d'un enfant. Il y a un père, il y a une mère et il y a Dieu. Tu es au moins le fruit du désir de Dieu. Parce que si Hachem ne voulait pas que tu sois là, tu ne serais pas là. Si tu es là, c'est qu'Hachem est intéressé à ce que tu sois là. Maintenant, après, dans un second temps, il va y avoir en effet ce que tu vas produire, ce que tu vas réaliser dans ton existence. Ça, c'est un deuxième acte. Mais déjà, je suis intéressé à ce que tu as. Qu'est-ce que je suis content? C'est comme quand quelqu'un me dit, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir? Je suis content de te voir. Pourquoi? T'as rien fait, tu as juste mangé des gâteaux à la limite. Je suis content de te voir. Pourquoi? Parce que t'es là. Vous n'avez jamais ressenti un moment de joie quand quelqu'un vous accueille de cette manière? Vous invitez quelqu'un, la personne arrive chez vous, vous la voyez, vous dites, qu'est-ce que je suis content de te voir? Pourquoi? Stam. Je suis content que tu sois là. Je suis heureux de savoir que tu existes. Tu n'as rien me donner, je n'ai rien me donner, peut-être Dafka, je vais te donner, toi tu me donneras, que sais-je? Je suis content. On ressent un moment de joie. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, j'ose espérer que c'est le genre de choses qui nous arrivent de temps en temps, sinon c'est dramatique. Dire à quelqu'un pour du beurre qu'on est content de le voir. Stam, pourquoi Stam? Ça me fait plaisir. Et pas dans la série, comme ça lui fait plaisir, je suis content de lui donner du plaisir. Non, non. Ça, c'est ce premier point. C'est-à-dire, éradiquer cette idée que on a une raison d'être que dans la mesure où on produit quelque chose. D'accord. Mettre ça de côté. Mettre ça de côté. Une fois que... C'est une fois qu'on est, on essaye, et c'est quelque chose sur lequel on travaille, il faut travailler. Après, bien sûr, il y a autre chose. Après, on va reprendre ces deux autres points, Ezehu Ashir Asamer Bechelko, et la notion de Simcha Bemitzvot. Ezehu Ashir, quel est l'homme riche, et celui qui est heureux Bechelko. Alors, le texte nous dit, Tachat Asher Lovat et Hashem Elokecha Besimcha Betuv Levav Merov Kol. De par le fait que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas servi Dieu besimcha, avec joie. Merov kol. Alors nous, la plupart du temps, on traduit merov kol quand tu avais beaucoup de choses. Il me semble que c'est le Maharal qui dit la chose suivante. Non. Asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha. Pourquoi tu n'as pas servi avec joie? Merov kol. Parce que tu avais beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu as fait dépendre ta joie de ton avoir. Et donc, la joie en tant que telle n'était pas présente chez toi. Parce qu'elle dépendait de ce que tu avais. Donc ce sentiment de joie en tant que tel qui est nécessaire dans ta vie n'était pas là puisqu'il dépendait de ce que tu avais en grande quantité. C'est pour cela que la Mishnah commence, elle nous dit « Ezehu Ashir Hasamer Bechelko » Quel est l'homme riche? Quel est le riche? Hasamer Bechelko qui est joyeux, Bechelko, dans sa part, pas avec sa part. Sinon, on aurait dit « im chelko », avec, « be », dans, à l'intérieur. C'est-à-dire celui qui voit dans ce qu'il a, la part qu'il doit recevoir dans ce monde-ci, et il est content de la connaître. Il est content de savoir quels sont les éléments qui sont à lui pour pouvoir créer et réaliser sa propre histoire. C'est vrai que vous allez me dire, quand quelqu'un dit ça, qu'il a le bonheur déjà d'être marié, d'avoir des enfants, des petits-enfants, de ne pas dormir sous les ponts, d'avoir dans la poche un ticket de métro pour rentrer chez lui et de ne pas être obligé de marcher sous la pluie, c'est extraordinaire. D'accord? En vérité, le Samer Bechelko, c'est quoi? C'est savoir que d'abord tu as un chelek, tu as une part. C'est quoi une part? Chelek, une part, ça veut dire qu'il y a d'autres parts. Quand vous dites que j'ai une part du gâteau, ça veut dire qu'il y a un gâteau. Et à l'intérieur du gâteau, j'ai une part. La première simcha, c'est sache que tu occupes une place dans le monde. Tu as un chelek. Tu es une partie de cet univers. Et quelque part, donc, l'univers a besoin de toi. L'univers a besoin de toi. Et nous, notre problème, c'est que on est dans un monde dans lequel on dit que l'univers, qu'est-ce que ça change? Si. Et c'est cette absence de conviction qui est dramatique. Parce qu'on est dans un monde dans lequel on dit « Ouais, d'accord, si je suis très jeune, plein d'argent, si je suis un grand rave, si je suis un grand chercheur, si je suis un grand médecin, si je suis un grand architecte, alors oui. Mais j'ai tous les matins et je suis là derrière mon ordinateur et je regarde, je fais les stocks du Franprix. » Donc, c'est super compliqué. Parce que justement, on est dans un système dans lequel c'est ce que l'on produit qui définit. Il faut sortir de ça. T'as un chélec dans ce monde. Et c'est pour ça que l'on dit qu'après 120 ans, il y en a un qui est monté, il a dit « j'ai vu le monde à l'envers ». On lui a dit « t'as pas vu le monde à l'envers, t'as vu le monde vrai ». Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait dit « ceux qui sont en bas sont en haut et ceux qui sont en haut sont en bas ». Il dit « non, t'as vu le vrai monde ». C'est parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est la même problématique que l'on a avec les mitzvot. Tu ne sais pas en vérité tout ce que tu produis. Tu ne sais pas ce que tu produis. Tu n'as pas conscience. Oui. Eh bien, évidemment. Mais attendez, pour l'instant, on n'en est pas au compte à rendre. Pour l'instant, on est ici. On parlera des comptes à rendre par la suite. On verra par la suite. Mais déjà, avant de commencer ça, sa mère, Bochelko, savoir que tu es un chélek dans cet univers. Et que quelque part, avec ou sans toi, c'est pas la même chose à Kadosh Baruch Hu, Kaviyachol, il serait obligé de réorganiser presque l'univers. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette notion de Sameach Bechelko? Sameach Bechelko. Savoir d'abord que je suis un chélek, c'est déjà fondamental. Après, c'est se dire, ok, j'ai un chélek. Maintenant, ce chélek, cette part-là, c'est d'abord identifier toute ma réalité à l'instant T. Identifier toute ma réalité à l'instant T, et de manière ultime, comme on le voit avec les Avot, ma réalité, c'est aussi les galères que quelqu'un peut avoir, mais non pris pour ne pas en avoir. C'est-à-dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont intégré tous les éléments de notre vie, de leur vie, pardonnez-moi, comme étant la part qui était la leur et avec laquelle il fallait faire quelque chose. On est dans un univers dans lequel on a la chance de savoir qu'il existe des choses qui ont des impacts, même si elles ne sont pas visibles, et que l'on peut créer des intensités différentes à des réalités qui vont donc avoir des impacts différents. Un exemple très simple, l'électricité, vous pouvez aujourd'hui augmenter très très fortement les volts, c'est ce que vous voulez, d'accord. On peut créer une forme d'intensité. Très bien. Lorsque quelqu'un est dans l'univers, il est là et il doit savoir qu'il va apporter quelque chose dans cet univers. Qu'est-ce qu'il va apporter dans cet univers en premier lieu? La première chose qu'il apporte dans cet univers, c'est tout ce qu'il peut être. C'est quoi tout ce que je peux être? C'est moi au plus que parfait. C'est moi au plus que parfait. Donc dès le moment où je rentre dans cette dynamique, eh bien, la notion de simchel est là puisque je suis en train de remplir mon chélek. C'est-à-dire que dès le moment où l'on opère un mouvement pour pouvoir exister au plus que parfait, à ce moment-là, on est en train de remplir la fonction qui doit être la nôtre dans le monde. Et de nouveau, il faut sortir de « mais qu'est-ce que je produis de visible, de quantifiable et de mesurable ?» C'est ça la difficulté. La difficulté, elle est là. Mais d'après vous, attendez. Quand ils étaient, il y a 200, 300, 400, 500, 600 ans, dans les villages, un peu partout, que ce soit dans le nord, dans l'Atlas marocain, ou au fin fond de la Pologne, ou dans la vallée du Rhin, ou dans les campagnes d'Alsace, ou alors en Italie, que sais-je. Ces villages dans lesquels vous aviez 50, 100, 80, 200, 500, 800 juifs. Et qu'il n'y avait pas nécessairement des grandes conférences et des grands trucs et des grands machins de ce que vous voulez. Et que les gens au quotidien, eh bien, c'était comment on mange, comment on boit, comment on lave le linge, comment on se débrouille. D'où ça provenait? C'est que nous, aujourd'hui, on analyse ça à travers le nombre de likes qu'on va avoir, le nombre de personnes qui vont être présentes dans une conférence, le nombre de trucs qu'on réalise à droite, à gauche, ce que l'on fait, etc., etc. Cette notion-là, elle existe parce que la personne est en mouvement. Et elle sait qu'au moment où elle opère un mouvement par rapport à elle-même, elle est en train d'opérer quelque chose dans l'univers et que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Et cette simcha-là, c'est quelque chose dont je peux être producteur au quotidien. Le point d'entrée, comme on l'a vu, c'est de savoir qu'Hachem est intéressé par moi, point barre. Et que j'ai une valeur en tant que telle. Et que le monde avec et sans moi, ce n'est pas le même univers. Et après, cette simcha, je la développe au quotidien. Bechelki dans moi part. Et ma part, c'est quoi? C'est le mouvement que j'opère à l'intérieur de ma propre existence. Et qui donc, quelque part, et générateur de joie parce que je sais que ce mouvement que j'opère est quelque chose qui transforme l'univers dans lequel je suis. Au-delà de l'impact concret qu'il peut avoir dans le monde des relations et au-delà de la satisfaction que je ressens de me voir être dans un mouvement d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a trois choses. Il y a en effet le constat que l'on fait de notre transformation intérieure qui fait que l'on est dans un mieux-être. Il y a le constat que l'on fait que cette transformation intérieure crée d'autres types de relations et améliore notre quotidien. Mais il y a, au-delà de ça, le fait que je sais que je suis en train de remplir véritablement le but de ma vie. Et ça, c'est en effet cette notion de simcha. Évidemment, lorsque l'on inscrit cette dimension à l'intérieur de notre vie, tous les éléments qui sont présents à l'intérieur d'elle sont perçus comme étant des lieux de transformation de nous-mêmes et de mouvement. C'est-à-dire que quand les Avot se confrontent avec toutes les situations auxquelles ils ont été confrontés, chaque situation a fait d'eux quelqu'un de différent, qui quelque part se transforme, grandit, et donc remplit à travers cela la mission qu'il a et la sienne dans le monde, sans percevoir nécessairement ce qui est en train de se passer à l'univers, dans l'échelle de l'univers et du cosmos. Et ça, c'est la notion de Simcha. Quand on parle de joie extraordinaire après 120 ans, c'est quand on réalise combien chaque moment de notre vie a été créateur de quelque chose d'incroyable, qui en plus nous amène maintenant dans une dimension extraordinaire. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur de soi. Et je reprends maintenant ce que vous disiez. Avec nos potentiels, le point d'entrée, c'est avant de connaître son potentiel, inscrire chez nous l'idée du mouvement en tant que tel. Du mouvement en tant que tel. Le mouvement en tant que tel, vous savez, c'est parfois des choses bien en amont de cela. Je vais prendre l'explication entre autres du Beit HaLevi sur cette paracha qui est très intéressante. Le Beit HaLevi explique et dit que quand Yosef rencontre ses frères et qu'il leur dit « Je suis Joseph, Ani Yosef », ses frères sont bouleversés. Et le Beit HaLevi dit pourquoi ? Parce que Yosef leur dit « Mes frères, vous avez vu tout l'argumentaire que vous êtes en train de sortir. Notre père va être dans la souffrance si on ne lui ramène pas notre frère. Et comment avec une immense conviction vous êtes en train de le dire ? Vous êtes en train de vous battre et de dire « On ne peut pas ne pas ramener notre frère parce que sinon la peine de notre père sera immense et c'est insupportable. » Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Souvenir. Il y a 22 ans de cela, il y avait aussi un autre frère dont vous savez que son père l'aimait profondément. Et cette idée, à un moment, que peut-être le père va souffrir, ne vous a même pas effleuré. Pourquoi ? Parce que dans votre tête, vous étiez sûr de votre bon droit lorsque vous me condamniez, disait Joseph. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Il est en train de leur dire que, au fond, à un moment, on peut élaborer dans sa vie une certaine vision des choses parce que ça nous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que quand ça ne nous intéresse pas, comme par hasard, on a le même principe de raisonnement, mais à l'envers. Grandir, c'est d'abord identifier ne serait-ce que cela, par exemple. C'est-à-dire que bien sûr, il y a aussi ce que l'on appelle le potentiel que l'on a, que l'on va devoir développer de la manière la plus adéquate possible, c'est sûr. Mais nous, on a un travail à faire souvent en amont. C'est déjà de travailler sur ce genre de choses. C'est pour ça que je donne cet exemple, parce que c'est la paracha de la semaine. C'est-à-dire sur ce regard honnête que nous devons avoir sur les arguments que l'on utilise dans notre vie pour opérer tel ou tel mouvement. Et rien que ça, c'est énorme. Première chose que l'on peut élaborer chez nous, un sujet que j'ai souvent évoqué ces derniers temps, la première chose que l'on peut créer chez nous, dites souvent aux gens, je leur pose la question, qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde ? Tu apportes au monde à travers ta présence, d'accord ? La seconde chose que tu apportes au monde, tu sais c'est quoi ? C'est ton absence de toxicité. De ne pas être toxique. C'est-à-dire de faire un travail intérieur pour te parfaire, pour que dans ta rencontre avec l'univers, tu n'obliges pas l'autre à utiliser ses énergies pour se protéger de la dimension toxique qui est la tienne. Là, tu n'as rien produit encore, mon frère. Tu n'as rien fait. On n'en est pas encore au stade, je connais ma génialité, mon intelligence, ma force, ma sensibilité, mon pouvoir, etc. Bien sûr qu'à un moment, c'est quelque chose qui devrait s'inscrire. Évidemment, je partage complètement. Mais avant d'arriver là, travailler sur son absence de toxicité. Travailler sur son absence de toxicité. Pourquoi ? Non pas parce que ma toxicité va faire du mal à l'autre, parce que l'autre va peut-être pouvoir s'en protéger. Mais pour s'en protéger, il est obligé d'utiliser des énergies. Les énergies qu'il utilise pour se protéger sont des énergies dont il ne disposera plus pour autre chose. Et quelque part, je lui ai volé des énergies qu'il aurait pu utiliser par rapport à la création d'autres choses. Pour des parents, travailler sur notre non-toxicité, c'est-à-dire faire en telle sorte que nos enfants ne vivent pas le drame d'un attentat au moment où il y a une dispute dans le couple, puisqu'on sait très bien, il y a des études passionnantes qui ont été faites, qui nous explique que le trauma qu'un enfant vit au moment où il y a une dispute dans le couple est aussi violent au niveau des échelles psychologiques que quand quelqu'un est victime d'un attentat. Parce que c'est un monde qui s'écroule. Donc vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore. La joie de faire ce travail, réaliser que je change à l'intérieur, qu'il y a des choses qui ne sont plus les mêmes, c'est une simcha incroyable. Parce que je sais que je participe à un moment de quelque chose qui me dépasse. Et évidemment, cette conscience-là, alors pour les Avot, c'est même au moment où ils se trouvent confrontés à la souffrance des épreuves. Parce qu'ils savent que dans leur manière de dépasser l'épreuve, de réussir à en faire un point sur lequel ils vont grandir, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre qui s'inscrit dans l'univers. Évidemment que c'est... Nous, on prie tous les jours pour ne pas vivre d'épreuves, parce que cette capacité-là, elle n'est pas simple. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ce n'est pas simple. Hein. C'est-à-dire, moi, j'en parle. Je ne pense pas du tout que je suis au niveau de ce que je suis en train de vous dire. Parce que qu'on le veuille ou pas, le fait, comme je vous le dis, de rentrer chez soi, d'avoir une épouse, des enfants, un toit qui ne fuit pas, un réfrigérateur dans lequel il y a encore quelques yaourts qui se promènent, on n'est pas mécontent, quoi. D'accord. On est même content. On est même très content. Qu'on le veuille ou pas. C'est quand même super. Mais il y a autre chose. Regardez. Peut-être que la joie que je ressens le plus ce soir, c'est le bonheur que j'ai de partager avec vous cette chose-là, d'avoir complètement dépassé la problématique de savoir combien il y aurait de personnes qui viennent écouter le cours. Parce que ce travail intérieur, c'est quelque chose qui à un moment te fait grandir et t'es content de ressentir qu'à un moment, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi. Parce que c'est quelque chose qui crée cette simcha. De voir qu'on était là et maintenant on est là. Et c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi. Cette joie de réaliser qu'on arrive à être moins stressé par une situation, moins nerveux par une chose. Cette joie de réaliser que dans une situation, on a identifié les points dans lesquels il ne faut pas tomber, on a fait l'effort de ne pas tomber dedans. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé. Et donc... À partir de là, on met en place ce processus. Évidemment, en tant que juif, il va y avoir aussi cette notion de simcha au niveau des mitzvot. Cette joie que l'on a au moment des mitzvot qui participe de notre épanouissement, qui participe de notre bien-être, qui participe d'une vie sereine. Pourquoi ? Parce que accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est un moment réaliser l'importance de ce que l'on est, parce que nous savons très bien que Dieu n'a pas besoin que nous fassions ce que nous sommes en train de faire pour lui. Donc ça veut dire qu'on est en train de remplir une fonction et un rôle dans l'univers. Quoi ? J'en sais rien. Les maîtres de la Kabbale le savent. Moi, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'au moment où je fais ça, je fais quelque chose d'incroyable. D'énorme, d'immense. Est-ce que je vais en voir le fruit ? Est-ce que je sais exactement ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Et on dit bien que le Ari HaKadosh dit que les niveaux incroyables auxquels il est arrivé dans sa spiritualité étaient liés à la joie qu'il avait au moment où il accomplissait la mitzvah. Mais cette joie, c'est quoi ? De réaliser qu'on est en train de faire quelque chose d'incroyable. Vous savez, c'est comme si demain, vous êtes capable d'expliquer à des parents que des gestes qui semblent être banals participent de l'équilibre, du bien-être, de la sérénité de leurs enfants d'une manière absolument fabuleuse. et qu'on arrive à le faire comme il faut, qu'est-ce qu'on se sent heureux? Qu'est-ce qu'on se sent heureux? Imaginez que, je vous dis, voilà, avec les enfants, soyez ceci, 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 cela. Pas comme des ânes battés, mais faites-le. Pourquoi? Il y a un moment, vous découvrez tout ce que ça a créé, tout ce que ça a développé chez lui. Au fond, à travers ce que vous avez fait, il y a eu des conséquences incroyablement belles. Ce sentiment de joie, il est là. Il est porteur d'un bonheur incroyable. Il est porteur d'un bonheur incroyable parce que l'on réalise que de par nos mouvements, que de par nos paroles, nous avons fait exister quelque chose dont nous ne serons peut-être pas les bénéficiaires. Alors c'est vrai que vis-à-vis de nos enfants, il y aura toujours une forme de retour, mais qu'on a installé dans l'univers. Et par extension, bien sûr. Par extension, bien sûr. Alors les étapes d'après seront aussi la conscience que l'on a de nos dimensions particulières et spécifiques qui créent chez nous des obligations particulières et qui, lorsqu'on les assume, nous remplissent de joie. Et c'est ça qui est extraordinaire. On ne réalise pas ô combien, lorsque l'on arrive à être et à faire ce que l'on doit faire, ça nous remplit de joie. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes en voiture en montagne. Vous avez une voiture. Vous avez 4 places. Vous avez 4 places. Donc votre potentiel, c'est aussi 4 places. C'est plein d'autres choses. Et puis à un moment, vous prenez la bonne file. Et comme vous avez pris la bonne file, alors vous pouvez vous arrêter pour prendre 3 personnes qui sont sous la pluie et qui lèvent la main. On ne ressent pas une joie incroyable à ce moment-là. Si vraiment on est dans cette vision de l'existence telle que je vous l'ai proposée, on est profondément joyeux. Pourquoi? Parce que la possibilité que nous avions de créer quelque chose dans l'univers vient de se réaliser de manière concrète. Parce que le monde des possibles s'est inscrit dans le monde du réel. Parce qu'il y a une résonance qui s'est mise en place entre ce que l'on peut faire et ce que l'on fait. Parce qu'il y a une résonance entre ce que l'on peut être et ce que l'on réalise. Et quand cette résonance, elle est là, eh bien, elle crée une joie. Et c'est la raison pour laquelle, si vous étiez sur la mauvaise file, et que donc vous ne pouvez pas vous arrêter parce que tout simplement, c'était techniquement pas possible, eh bien, vous ressentez quelque chose qui vous dérange. Pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité à un moment d'exploiter le potentiel qui était le vôtre, qui était tout simplement de donner du bonheur à 3 personnes qui sont trempées sous la pluie, que vous n'avez pas pu réaliser. Et peut-être que justement la raison pour laquelle vous étiez sur cette deuxième file, c'était que vous viviez cette expérience et que vous preniez encore plus la mesure après du bonheur que l'on a, d'être ce que l'on peut être. Et après, bien sûr, ça va et ça passe de stade en stade et après, au fur et à mesure, on va et on augmente. Voilà quelques piste de réflexion sur ce sujet qui, bien sûr, est beaucoup plus vaste. Et si vous le voulez maintenant, eh bien, on va passer à vos questions avant de conclure.